Plaisance à Montauban 93.3.
Quel plaisir de vous retrouver hein, pour passer ce 12-13 ensemble. Très bon mercredi. Bon appétit déjà si vous êtes à table comme d'habitude. Et si vous êtes en voiture, soyez très prudent. Plaisir de passer de ces bons moments. On va mettre le Gers en avant puisque dans quelques instants, on va parler de formation au niveau de l'église avec le père François Ducasse qui sera au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et puis on restera dans le Gers puisque une structure vous propose des balades dans le Gers, des randonnées. Ça s'appelle Passe en Gers et ils ont fêté, ils fêtent leurs 10 ans cette année et ce sera Pauline Casi qui nous présentera cette belle structure qui donc permet de découvrir le Gers autrement. Et puis un jour, un livre, un auteur, Philippe Lonnier a décidé de nous présenter deux livres sur la guerre. Vous savez qu'on a fêté l'anniversaire cette année de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il viendra sur un livre sur une résistante et puis également on parlera d'un soldat japonais qui a continué la guerre pendant plus de 20 ans. Il était persuadé qu'elle n'était pas terminée. Et voilà, un livre tout à fait étonnant que nous propose de découvrir Philippe Lonnier dans quelques instants, dans Un jour, un livre, un auteur. Belle matinée, je disais, on va retrouver l'essentiel de l'actualité régionale de ce mercredi 4 juin en compagnie de Coralie Guénan. Bonjour Coralie.
Dans l'actualité aujourd'hui, les enseignants de 5 lycées toulousains sont appelés à manifester devant le rectorat. Ils protestent contre la baisse des dotations horaires globales attribuées par l'Académie de Toulouse pour l'année 2025. Elles se traduisent par des classes surchargées ou bien par des options qui pourraient être supprimées. Des travaux commencent aujourd'hui et risquent de perturber vos trajets si vous êtes dans les Hautes-Pyrénées entre Tarbes et Lourdes. Des travaux de réfection de chaussée de la Nationale 21 sur la 2x2 voies jusqu'au 26 juin, de jour comme de nuit et dans les deux sens de circulation. Pendant cette période, pour les trajets en direction de Lourdes, vous êtes donc invité à suivre les déviations. Un trou formé dans le jardin d'un Toulousain à cause d'un passage des tunneliers de la ligne C. Dans le quartier de Bonnefoy, aucun blessé n'est à déplorer, mais les habitants du quartier restent néanmoins inquiets car ce n'est pas la première fois qu'il y a des dégâts à cause de ce tunnelier. Un gel des suppressions de postes chez Thales Alenia Space. Ils avaient pourtant annoncé septembre dernier la suppression de près de 700 postes à Toulouse. Ce plan est annulé au moins jusqu'à la mi-2026. Tout près de nous, dans les Pyrénées, Monseigneur Joseph Louis Serrano Pantina est devenu évêque de plein droit ce 31 mai en Andorre. Sur nomination du pape Léon XIV, il est donc devenu coprince, appelé à exercer le rôle de chef d'État du petit pays des Pyrénées en binôme avec le président de la République française. Vous pouvez désormais l'observer sur les sommets de Toulouse au château d'eau de Pêche-David, une réalisation monumentale des artistes oiseaux et opéra qui se nomme De la nature au cosmos. Elle est tout juste prête pour voir passer le 16 juillet prochain les coureurs du Tour de France.
Voilà, un grand merci à Coralie Guénan de l'Institut catholique de Toulouse qui fait ce partenariat à l'école de journalisme donc avec toute l'équipe de Radio Présence. Dans quelques instants, on part pour le Gers. On va retrouver Anne-Rose Jankovic qui sera au micro de l'abbé François Ducasse qui s'occupe de toute la formation dans le diocèse d'Auch. Mais pour l'instant, on retrouve Jean-Jacques Goldman avec Tourne les violons.
De fête au château il y a bien longtemps, les belles et les beaux nobles y au noble sang, de tout le royaume en est venu dansant. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. Grande fête aux Rameau et Manon à 16 ans, servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Tourne les violons, tourne les violons. Le bel uniforme, le beau lieutenant, différent des hommes d'ici, blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les violons, tourne les violons, tourne et s'en vont. Fêter les rires. grasse, née dure et grise à servir. Une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les vieux. Prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie. Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie.
Présence à Millau 106.5.
Bonjour Père François Ducasse, vous êtes le curé de la paroisse Déos dans le diocèse d'Auch et vous êtes également responsable diocésain de la formation dans ce même diocèse du Gers. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'une formation à l'écoute, une formation qui a eu lieu il y a quelques jours ou quelques semaines. D'abord, avant de nous raconter comment ça s'est passé, est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'idée est venue de proposer une formation à l'écoute? Quel est le besoin que vous avez détecté, ressenti?
Alors, c'est un besoin qui a été détecté depuis longtemps, mais qui n'était pas beaucoup exprimé, parce que c'est pas facile de dire, ah ben, pour ma mission, pour mon engagement, j'ai besoin d'être plus à l'écoute des gens que je rencontre. Mais le démarrage de ces formations a été rendu possible parce que nous avons dans le diocèse quelqu'un qui est une formatrice de très haut niveau, qui nous a permis justement avec elle de mettre en œuvre une session, une première session de deux jours à intervalle, à 15 jours ou un mois d'intervalle. Et depuis 2019, nous continuons à faire deux sessions par an à destination de toutes les personnes qui ont besoin d'écouter. Alors que ce soit l'écoute des malades dans les services évangéliques des malades ou dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, que ce soit aussi pour accompagner les familles en deuil. Et là, c'est quand même un moment et un choix important dans la mission de ceux qui s'y engagent. Et puis aussi pour ceux qui accueillent les personnes dans les presbytères, pour les catéchistes ou les animateurs d'aumônerie qui ont besoin de savoir écouter les jeunes, les enfants et les parents.
Il y a un public du coup qui est très large avec des engagements dans des services très divers. Ça veut dire qu'aussi les besoins d'écoute ne sont pas les mêmes. Est-ce que néanmoins il y a un socle commun, une base, des petits réflexes de base à avoir pour être dans une position d'écoute? Parce que qu'on soit face à une famille endeuillée ou face à une personne en fin de vie, j'imagine qu'on ne peut pas tout à fait avoir la même posture. Alors, c'est encore différent quand on accueille des enfants, des familles qui viennent toquer pour demander un baptême. Malgré toutes ces différences de situation, est-ce qu'il y a un socle commun pour bien accueillir?
Ah oui, il y a un socle commun qui est celui de l'écoute active, c'est-à-dire l'écoute active, c'est ce qui permet d'entendre profondément ce que dit l'autre, hein, ce qu'il ne dit pas, et à travers une nouvelle façon qu'a Elisabeth de travailler, maintenant elle travaille beaucoup sur la résolution émotionnelle, et donc sur l'interprétation des attitudes, des gestes. Et donc, il y a un socle commun, effectivement. Un socle commun, le premier socle, vraiment le pilier, c'est l'effet miroir.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, vous m'avez dit quelque chose, je vous renvoie ce quelque chose en l'augmentant d'une petite question. Vous me dites, vous voulez m'interviewer? Je dis, ben oui, et vous voulez qu'on parle de quoi? Et on enchaîne comme ça, progressivement, mais j'ai bien entendu votre demande, et je réponds en vous rappelant la demande que vous avez faite.
Donc l'idée, c'est de permettre à la personne qui est face à nous de se livrer le plus possible et de déposer son fardeau au mieux.
Tout à fait, notamment les gros cailloux. Hein.
Oui.
Les gros cailloux qui encombrent les émotions, qui encombrent les relations, ouais. Effectivement. Et on se rend compte, depuis 5 ans maintenant que nous pratiquons ces formations, qu'il y a vraiment un énorme besoin et que peut-être même les personnes qui en auraient le plus besoin ne viennent pas à ces formations. Les retours qu'on a sont extrêmement positifs.
Comment vous expliquez cette, je ne sais pas si on peut parler de pudeur, mais enfin, est-ce qu'il y a une pudeur dans cet apprentissage de l'écoute?
Oui, bien sûr. Bien sûr, d'autant que pendant la formation, il y a des mises en situation. C'est des jeux de rôle, hein, des mini-jeux de rôle. C'est pour ça que dans les sessions, on accepte maximum 14 personnes. Donc il y a des mises en situation qui effectivement permettent d'abord de prendre conscience, hein, de prendre conscience de sa propre façon d'écouter, de ses propres manières et attitudes d'écoute. Ça, c'est déjà la première chose. Et puis après, la deuxième chose, c'est vraiment d'arriver à apprendre ou à renforcer l'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est l'écoute qui va, bien sûr, partager ce qui vient d'être dit.
Alors, on peut parfois être tout à fait dans l'écoute et pourtant être surpris, déstabilisé, bouleversé par ce que la personne nous dit ou nous confie. Comment on fait, comment on peut gérer ça, l'émotion que l'autre nous renvoie?
Justement, il y a une part de la formation qui est justement sur la gestion des émotions, ce que la formatrice appelle la résolution émotionnelle, qui sont des techniques un peu nouvelles de façon de prendre conscience de ses propres émotions et de savoir les gérer de façon à ne pas interrompre un dialogue par ses propres réactions qui seraient disproportionnées. Et vous me dites, par exemple, vous comprenez, moi j'ai un cancer là maintenant qui m'empêche de faire ceci, de faire cela. Et si la personne en attitude d'écoute dit « Ah, ben moi, ça me rappelle que j'en ai eu un aussi. »
Ah oui.
Elle n'a même pas renvoyé le fait qu'elle avait entendu ce que la personne en face d'elle lui a dit.
Donc, en fait, la clé, c'est de toujours manifester son attention, sa bienveillance, peut-être même sa tendresse à l'égard de celui qui arrive et qu'on ne connaît pas, mais qui…
En étant prudent sur ses propres émotions aussi.
Bien sûr, bien sûr.
En étant prudent, autant des émotions empathiques que des émotions antipathiques. Ça peut arriver également. Hein. Et puis, vous voyez, il y a toujours l'aspect, comme c'est des personnes qui sont engagées, alors quand on voit les types d'engagement, c'est préparation mariage, hein, accompagnement de catéchumène, visite en EHPAD, funérailles, répondant dans les villages, vous voyez. Les personnes qui sont les correspondants dans les villages, aumôneries en hôpital. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de profils qui sont très différents, et surtout des missions qui sont différentes. Et donc l'intérêt aussi de cette formation, c'est de relier cela à la présence du Christ, dans la relation. Et donc il y a bien quelques exercices qui permettent d'aller voir comment Jésus écoutait dans les évangiles.
Ça veut dire qu'il y a une posture chrétienne de l'écoute?
Non, pas chrétienne, une posture particulièrement humaine, mais modelée par le fait que le Christ est présent dans le dialogue, dans la relation.
Alors, cette formation, donc depuis 2019, vous en faites 2 sessions par an. Vous nous parlez là de toutes les personnes qui ont des services et des missions très différentes qui participent. Alors, comment ça se passe? Comment ça s'est passé dans les sessions que vous avez vécues déjà, ce mélange des missions? Est-ce que c'est un plus ou est-ce que ça donne un challenge supplémentaire?
Ah oui, tout à fait. Je reprends une des réactions qu'on a eu, parce qu'il y a un bilan qui est fait, le groupe est sincère et vivant. Les mises en situation sont importantes, mais difficiles pour démarrer un sujet hors situation. J'adorais les deux rencontres avec des gens très différents. Vous voyez, c'est ce genre de remontée qui nous permettent de dire que quelle que soit la mission dans le groupe, dans les personnes du groupe, toutes ces missions ont ce point commun, c'est des personnes qui doivent être et qui ont besoin d'être à l'écoute. De leur correspondant, de leur vis-à-vis.
Alors, pour connaître les dates de ces formations spécifiquement, là, celle de la formation à l'écoute, mais de toutes les autres, puisque vous êtes le responsable diocésain de la formation dans le diocèse d'Auch, comment faut-il faire, comment on peut se tenir au courant des propositions de formation que vous lancez?
Alors, les propositions de formation, déjà, sont diffusées par Église qui vit, par le magazine mensuel du diocèse. Puis ensuite, elles sont également, qu'elles sont prévues longtemps à l'avance, elles sont sur le site internet du diocèse, donc dans l'agenda du site internet du diocèse.
Voilà. Une dernière question, Père François Ducasse, pour vous qui êtes donc responsable diocésain de la formation, est-ce que vous trouvez que nous, les chrétiens, on se forme assez? À quoi on a besoin de se former en priorité? Est-ce qu'on est bon pour se former?
Je pense qu'on est bon pour se former, en fait, notamment les laïcs comme les prêtres d'ailleurs, mais qu'on n'y met pas beaucoup d'énergie.
Ah.
Notamment, je pense en particulier aux jeunes foyers, aux jeunes catéchistes qui en auraient vraiment besoin et qui ont une vie extrêmement remplie, des agendas extrêmement pleins et qui ont vraiment très peu de temps pour se former. Sinon, effectivement, Tout le monde a besoin de se former et de se former en permanence. Et les thèmes les plus importants, évidemment, c'est autour de la Bible, de la liturgie, de la formation chrétienne, la formation à la charité, la formation. Après, il y a les mouvements qui ont leur propre circuit de formation, mais en formation générale, formation à la découverte, redécouverte, approfondissement de la foi.
Donc, alors, par où commencer? Parce qu'en fait, il y a tellement de propositions et on a besoin de se former dans tellement de domaines. Par où commencer?
On peut commencer par n'importe quel bout, tout se rejoint.
Ah, bah voilà une très bonne réponse.
Ah oui, tout à fait. On peut commencer par, des études de sociologie, comme par des études de linguistique pour apprendre l'hébreu ancien. Vous voyez, on peut commencer par tous les bouts.
Et tout le monde peut se former.
Et tout le monde peut se former.
Voilà, ça c'est important.
On propose des formations justement, autant pour des catéchumènes, des gens qui découvrent la foi chrétienne, que pour des recommençants, des gens qui retrouvent le chemin de l'Église, que aussi pour des gens confirmés qui veulent approfondir leur foi, approfondir leur connaissance biblique, approfondir même tous les écrits de l'Église, et je pense en particulier aux textes majeurs que le pape François a fait paraître récemment, et pour lesquels, ah pas le dernier c'est encore trop neuf, mais pour les précédents, il y a des fiches qui existent au niveau de l'Église en France, de l'Église catholique en France, mais des fiches aussi que nous avons développées à destination de certains publics plus précisément.
Voilà, en tous les cas, des outils existent, des propositions sont faites dans votre diocèse et un petit peu partout. Et donc, il est possible de goûter à la joie de la formation sur tous les sujets.
Tout à fait, et à tous les âges. Hein.
Voilà.
C'est le caté à tous les âges.
Un grand merci, Père François Ducasse. Donc, je rappelle que vous êtes le curé de la paroisse Déos dans le Gers et que vous êtes également responsable diocésain de la formation. Vous nous parliez donc aujourd'hui de la récente formation à l'écoute que vous avez organisée dans votre diocèse. Et on a bien compris que d'autres formations sont proposées dans le diocèse d'Auch. Et pour avoir les dates de formation, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur le site du diocèse, diocèse32.org, diocèse32.org, et toutes les informations sont indiquées là-dessus. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Voilà, puis puisqu'on a dit un remerciement, on remercie aussi Anne-Rose Jankovic pour ce reportage donc dans le diocèse d'Auch. On va rester dans ce beau département qu'est le Gers, puisque nous allons découvrir grâce à Pauline Cazier une belle structure qui nous permet de découvrir le Gers autrement en se baladant. Quoi de plus mieux pour un département aussi beau.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
L'aventure a commencé au printemps 2025. 7 guides conférencières se regroupent sous la marque Passengers pour proposer des visites guidées dans tous les départements du Gers. Diplômées et expérimentées, elles font le pari de développer un tourisme culturel de qualité en milieu rural, en complémentarité avec les bénévoles ou les guides salariés des offices de tourisme. En 10 ans, Passengers a accueilli 12 593 visiteurs, soit 380 groupes, et a assuré plus de 4 786 heures de guidage avec des profils variés comme retraités, randonneurs, associations d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, comités de jumelage, établissements scolaires, etc., etc. Avec des visites classiques et insolites réalisées sur mesure et en fonction des centres d'intérêt, je vous propose d'écouter l'interview de la fondatrice Marie-Sabrina Bonafé qui nous explique comment fonctionne Passengers. Elle est au micro de Pauline Cazier.
Alors, j'ai une formation en histoire et en histoire de l'art et mes premiers postes ont été dans le cadre du label Ville et Pays d'Art et d'Histoire. J'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs pays d'art et d'histoire ruraux, d'abord en Auvergne, puis en Normandie, avant d'arriver dans le Gers pour monter le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire pour l'agglomération du Grand Auch. Donc pendant 6 ans au sein de l'agglomération, j'ai monté ce label, obtenu le label par le ministère de la Culture, puis mis en place un certain nombre d'actions. Et au bout de 6 ans, j'ai décidé de développer la découverte du patrimoine autrement à l'échelle du Gers. Et j'ai proposé à un certain nombre de collègues, guides conférencières, de s'associer pour proposer des visites guidées, des randonnées culturelles à l'échelle de tout le département. Et c'est comme ça qu'est né Passengers en 2015.
Alors Passengers, qui n'est pas une association, mais une coopérative. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Alors, comme on était sur un projet collectif dès le départ, on s'est dit qu'on allait créer notre propre coopérative, notre propre SCOP. Avec la difficulté administrative que quand on crée une SCOP, il faut impérativement créer 2 emplois équivalents temps plein, qu'il faut pouvoir rémunérer dès le premier jour. Ce qui n'est pas simple quand on démarre une activité. Donc on a fait le choix de se rapprocher d'une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Canopée à Auch et qui a pu porter notre activité dans le temps qu'on monte en activité et en chiffre d'affaires. Et puis au final, l'activité a continué à se développer au sein de cette coopérative d'activité et d'emploi. Depuis, j'ai changé de coopérative d'activité et d'emploi. Je ne suis plus à Canopée, mais je suis à Auzon. Mais l'idée, c'est de continuer dans ce cadre coopératif qui nous permet d'être des entrepreneurs salariés. C'est-à-dire qu'on est à la fois entrepreneurs individuels, même si là nous le faisons de manière un petit peu plus collective avec plusieurs guides, mais aussi avec un statut salarié qui est plus protecteur que nombre de statuts d'entreprises privées.
Passengers a 7 guides conférencières. Diplômés et expérimentés. C'est important de le dire.
Voilà, nous avons démarré à 7. Maintenant, l'effectif tourne autour d'une dizaine de personnes. Mais ce qui est important, c'est effectivement que nous ne recourons qu'à des personnes qui ont cet agrément de guide conférencier. C'est un diplôme qui est agréé par le ministère de la Culture. Et pour nous, c'est important parce que ça signifie que c'est des personnes qui ont une formation en histoire et en histoire de l'art, qui ont aussi de l'expérience en médiation culturelle et qui choisissent d'en faire leur métier. Donc c'est important d'accentuer, de mettre en avant cette dimension-là professionnelle. Et c'est vraiment un métier dont on vit toute l'année. Et ça, c'est important aussi.
Alors là, on est en 2025, c'est une date importante parce que ça a été créé en 2015. Donc on fête les 10 ans de Passengers.
Oui, en fait, les 10 ans, et c'est vrai que c'est assez exceptionnel, parce que quand on sait qu'une entreprise sur 4 met la clé sous la porte en moins de 3 ans, se dire qu'une entreprise culturelle peut avoir une longévité, c'est assez encourageant. J'espère que ça donnera des ailes à bien d'autres camarades pour se lancer aussi. Et du coup, on profite de cette année anniversaire pour mettre en place quelques événements un peu exceptionnels aussi, et pour faire une rétrospective. Et j'avoue que ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de me replonger un petit peu dans les archives de ce que nous avons fait chaque année, et c'est assez réjouissant de voir tout ce que nous avons pu explorer en 10 ans.
Alors oui, je vois ici, entre 2016 et 2024, 330 animations, 4305 visiteurs. Expliquez-nous le type de visite. Alors, il y a des visites individuelles et des visites par groupe. Les visites individuelles.
Voilà, ce que vous venez de citer, ce sont les visites pour individuels. Les visites pour individuels, ce sont celles que l'on programme en partenariat avec un office de tourisme, une association, un château, un domaine viticole, et qui peuvent avoir lieu essentiellement pendant l'été. C'est là que le public est le plus disponible, mais parfois hors saison. Pour vous donner un exemple, chaque année, à l'occasion du festival Saint-Mont Vignoble en Fête, qui a lieu à la fin du mois de mars, nous collaborons avec Plémont, donc avec des vignerons, sur des manifestations. On a eu l'occasion de travailler régulièrement avec les Chemins d'Art en Armagnac, qui est une association sur le secteur de Condon, mais aussi avec le château de la Vardens. Donc ça, c'est une programmation que l'on établit avec ces partenaires-là, avec des horaires fixes qu'on peut retrouver sur un programme papier et sur notre site internet pour pouvoir s'inscrire en fonction des dates programmées. Par ailleurs, nous répondons aussi sur toutes les demandes de groupes sur mesure. Donc c'est vrai qu'une bonne partie de nos groupes sont des groupes de retraités. Donc, eux voyagent plutôt au printemps et à l'automne. Avril, mai, juin et septembre, octobre sont des saisons extrêmement chargées pour les guides conférenciers. Mais on a aussi des randonneurs qui viennent, qui nous demandent un programme parfois sur plusieurs jours. On peut avoir des associations qui font leur sortie de fin d'année ou une sortie exceptionnelle un petit peu dans le département. On peut avoir des entreprises qui organisent des séminaires ou des événements de team building et qui associent une découverte culturelle. Et puis également des scolaires, notamment dans le cadre du Pass Culture qui a été mis en place par les gouvernements. Eh bien, nous pouvons accueillir des scolaires avec prise en charge financière de leurs interventions. Donc pour tous ces groupes, en fait, on fait vraiment du sur-mesure, parce que vous imaginez bien que les retraités n'ont pas forcément les mêmes attentes ni les mêmes contraintes physiques, auditives, etc. que d'autres publics. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure. Donc pour certains groupes, on intervient juste une heure et demie sur un seul lieu. Pour d'autres, on va les accompagner pendant 5 jours d'affilée en mêlant des visites patrimoniales et des rencontres chez les producteurs. Armagnac, Port-Noir, Canard, etc. sont bien entendu fortement appréciés des visiteurs.
Il y a aussi un autre public, les publics des EHPAD. Ça, c'est très important. Alors, les EHPAD de tout le département, avec des ateliers qui sont soutenus par la CARSAT et la CFPPA. Parlez-nous de cet aspect-là.
Dès 2016, donc, on s'est effectivement questionné sur comment toucher davantage la population gersoise, et notamment cette population de retraités, soit qui est en maison de retraite, soit qui sont des personnes qui vivent à domicile, mais qui sont intéressées par des questions de patrimoine. Et on a eu l'occasion de mettre en place des programmes accompagnés par la CARSAT, donc caisse de retraite, et aussi la CFPPA, conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie dans le Gers. Ça, ce sont des fonds d'État qui sont relayés par le département du Gers. Et l'idée, c'était de travailler sur tout ce qui est prévention de la perte d'autonomie. Alors, la prévention de la perte d'autonomie, on pense souvent à des questions purement physiques, apprendre à ne pas chuter ou savoir bien se relever. Mais en fait, la prévention de la perte d'autonomie, ça passe aussi par éviter l'isolement social. Parce qu'avec l'âge, on peut s'auto-censurer dans les sorties que l'on fait, parce qu'on marche mal, on a l'impression qu'on va pénaliser le reste du groupe, parce qu'on entend mal et qu'on n'est pas à l'aise sur un groupe plus important. Et donc travailler sur des effectifs de tout petit nombre, et avec un groupe qui se retrouve à plusieurs reprises tout au long de l'hiver, ça permet de créer un climat de confiance avec les intervenants, confiance entre eux, mais aussi développer la confiance en soi des personnes qui participent, et de se redire si j'arrive à participer à cette activité là peut-être que je peux en faire d'autres. Ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler la prise de parole aussi dans un petit groupe, et ça, c'était extrêmement important. Alors on a effectivement intervenu aux quatre coins du département, à Auch, Mauvezin, Marciac, Castéra-Verduzan et Auze. La dernière intervention qu'on a fait, elle était l'année dernière au centre social La Ruche du Baron à Auch, avec des activités qui mélangeaient la découverte de l'histoire et du patrimoine, mais aussi la danse et le chant. La dimension pluridisciplinaire me semblait aussi extrêmement importante dans cette approche.
Alors, en 2021, vous avez, pour être plus autonome, des podcasts. Alors, les Baludios.
Alors, Baludios, c'est l'acronyme de balade ludique en audio. Et en 2021, on était aussi sur la période post-Covid, on ne savait pas trop comment aller reprendre les visites guidées. Et en même temps, on avait déjà cette problématique depuis l'origine d'être sur un grand territoire, hein, puisqu'on est, on exerce à l'échelle de l'ensemble du département du Gers, et de ne pas pouvoir programmer des visites pour le public individuel toute l'année, et en particulier hors saison, ou ce qui est considéré comme de la basse saison. Et donc la création de cette plateforme baludio.fr, elle permet de se substituer au fait d'avoir un guide, mais ce sont quand même des guides qui font les contenus, qui préparent ces balades, qui sont disponibles en podcast directement sur internet, sur la plateforme Baludio. L'intérêt étant qu'on le fait à la date de son choix. Si on veut s'arrêter parce que le petit dernier a besoin d'une pause goûter ou qu'on veut nous-mêmes faire la pause apéro, c'est sans problème. Et puis parmi ces podcasts, il y en a plusieurs qui ont été faits dans l'optique du jeune public. Donc vous avez notamment 3 parcours autour de D'Artagnan, à Auch, Condon et Lupiac, et puis un à Lombez sur le street art, où il y a aussi un niveau de lecture avec des jeux pour le jeune public.
Alors vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Votre site internet passeangers.fr est très riche. On peut trouver beaucoup de choses que vous faites. On peut retrouver toutes les activités sur, donc je répète, www.passe-du-6-en-du-6-gers.fr.
Voilà cette belle aventure qui a commencé au printemps 2025. À l'instant, c'était la fondatrice de Passeangers, Madame Marie-Sabrina Bonafé, qui était au micro de notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier. Et nous poursuivons ce programme avec le journal de la mi-journée qui nous est présenté par Coralie Guénan de l'ICT de Toulouse, que je salue. Bonjour Coralie.
Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, les enseignants de 5 lycées toulousains sont appelés à manifester devant le rectorat. Parmi eux, Déodat de Sèvrac, Les Arènes, Joséphine Baker, Berthelot et Toulouse-Lautrec. Ils protestent contre la baisse des dotations horaires globales attribuées par l'Académie de Toulouse pour l'année 2025, car ça se traduirait par des classes surchargées ou bien par des options qui pourraient être supprimées. Des travaux commencent aujourd'hui et risquent de perturber vos trajets si vous êtes dans les Hautes-Pyrénées entre Tarbes et Lourdes. Il y aura des travaux de réfection de chaussée de la Nationale 21 sur la section à 2x2 voies entre le giratoire permettant l'accès au péage Tarbes-Ouest de l'autoroute A64 à Ibos et le demi-échangeur du Marquisat à Lannes jusqu'au 26 juin, de jour comme de nuit et dans les deux sens de circulation. Pendant cette période, pour les trajets en direction de Lourdes, vous êtes donc invité à suivre les déviations. Un trou énorme s'est formé dans le jardin d'un Toulousain pour cause le passage d'un des tunneliers pour la construction de la ligne de métro C. L'accident s'est produit dans le quartier de Bonnefoy, aucun blessé n'est à déplorer. Et même si le trou a rapidement été rebouché, le voisinage est inquiet, sachant que le mois dernier, dans le même quartier, le tunnelier avait causé des fissures sur des maisons. Un gel des suppressions de postes chez Thales Alenia Space. Ils avaient pourtant annoncé septembre dernier la suppression de près de 700 postes à Toulouse. Le plan de poste est donc annulé au moins jusqu'à la mi-2026.
Un nouvel évêque qui est aussi chef d'État en Andorre.
Oui, tout près de chez nous, dans les Pyrénées, Monseigneur Joseph Louis Serrano Pantina, 48 ans, évêque coadjuteur du diocèse catalan d'Urgel, est devenu évêque de plein droit ce 31 mai sur nomination du pape Léon XIV. Il est donc devenu coprince d'Andorre, appelé à exercer le rôle de chef d'État du petit pays des Pyrénées, en binôme avec le président de la République française. Vous pouvez désormais l'observer sur les sommets de Toulouse, sur le château d'eau de Pêche-David, une réalisation pleine de couleurs monumentales des artistes oiseaux et opéra qui se nomme De la nature au cosmos. Elle est tout juste prête pour voir passer le 16 juin prochain les coureurs du Tour de France. Et enfin, Nicole Croisy, grande artiste française polyvalente entre cinéma, danse et chansons, est décédée aujourd'hui à 88 ans. Des suites d'une longue maladie, a appris l'AFP auprès de son agent. Proche de Claude Nougaro, elle avait repris le titre emblématique Toulouse pour son album de jazz sorti en 2006.
Comme nos voix vagabonde, gabadabada, chante tout babadabada, gabadabada, nos cœurs voix vagabonde, gabadabada, comme une chanson.
Voilà, petit hommage à Nicole Croisy pour terminer ce journal. Merci beaucoup à Coralie Guénan de l'ICT de Toulouse, avec cette école de journalisme avec qui nous avons un partenariat. Tout de suite, on prend la direction de la librairie, puisqu'on retrouve un jour un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur, Diego Arrabal, Philippe Noni. Et la semaine dernière, on a parlé longuement du livre de Diego Arrabal, qu'on rappelle, tiens, le titre.
Alors, c'est Illusion.
Illusion, voilà.
Et alors, quand aux éditions Arcane 17.
Et quand on a l'auteur qui parle de son livre, c'est magnifique. Aujourd'hui, sélection de deux bouquins, Philippe Noni, deux bouquins qui ont l'air complètement différents, mais je pense qu'il y a un point commun.
Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a un point commun. Et puis bon, on arrive vers l'été, les vacances, repos et du temps. C'est ça qui nous manque, du temps pour s'évader.
On va nous mettre les cliquets, vous savez, un peu.
Exactement. Et du temps pour s'évader, et quoi de mieux que la lecture pour partir loin dans l'espace et parfois dans le temps. Et on va voir effectivement avec ces deux livres qu'on va revenir dans le temps. Dans Un jour, un livre, un auteur, nous vous proposons une sélection de deux livres en rapport direct avec le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 mai 1945 en Europe et, on le rappelle, le 2 septembre 1945 en Extrême-Orient. Quand la guerre se termine en Europe, elle n'est pas terminée au niveau du Japon. Avec la réédition donc, du Japon, donc deux livres qui sont deux journaux écrits, l'un en Europe et l'autre aux Philippines. Le premier, ils partiront dans l'ivresse de la résistante, vous la connaissez forcément, Lucie Aubrac, en livre de poche, chez Point. Et au nom du Japon, du soldat japonais Hiro Onoda, dans la collection Le Livre de Poche. Deux journaux, deux histoires singulières que nous vous proposons de découvrir cet été durant vos congés de lecture réflexive. Pour ne pas oublier Philippe Subercase et Diego Arrabal, que la paix n'est jamais, au grand jamais, un bien acquis. Alors, pourquoi ce choix? Quel est le lien entre ces deux ouvrages? C'est ce que vous me...
C'est la question que je vous ai posée.
C'est la question que vous me posiez tout à l'heure.
Question intelligente que je vous ai posée.
Ah mais ça, tu avais... Très ça, on ne pose que des questions intelligentes.
Et pas du tout préparées.
Et pas du tout préparées, exactement. Le lien qui relie ces deux ouvrages est que chacun d'entre eux est un journal qui rapporte la vie de deux protagonistes dans deux lieux très différents, mais deux lieux touchés par le deuxième conflit mondial. Nous allons commencer par l'histoire incroyable d'Hiro Onoda. Il faut savoir que c'est un soldat japonais qui refusa de croire à la reddition japonaise en 1945 et qui va continuer de résister, vous savez jusqu'en quelle année? Jusqu'en 1974. Il va continuer le combat, c'est une histoire assez incroyable, jusqu'en 1974, donc 30 ans passés dans la jungle, de 1944 à 1974, 30 années, il faut savoir, où l'on tenta en vain de lui faire prendre conscience que la guerre était terminée. On fit venir son propre frère dans l'île à deux reprises, celui-ci muni d'un haut-parleur harangua son frère pour le conjurer de se rendre. Mais celui-ci, Hiro Onoda, donc pensa à un stratagème et continua la résistance. Écoutez plutôt cet extrait de la préface du journal Au nom du Japon d'Hiro Onoda en livre de poche qui montre combien ce soldat était dévoué corps et âme à l'empereur Hirohito. En décembre 1944, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'officier japonais Onoda est envoyé sur l'île philippine de Lubang avec la mission secrète d'y mener une guerre de guérilla. Il ne déposera les armes que 30 ans plus tard, en mars 1974. Le récit hors du commun qu'il donne de sa vie dans Au nom du Japon se lit comme la plus haletante des aventures humaines. Mais ce qui en fait toute la force, c'est qu'il s'agit avant tout du récit d'un homme plutôt que d'un soldat, quand bien même il écrit, je le cite, que sa mission était devenue toute sa vie. La reddition impossible, ce n'est pas celle du sous-lieutenant Onoda, mais celle de sa foi totale dans l'Empire du Japon et dans les valeurs absolutistes japonaises, aussi bien humaines que métaphysiques. Les prémices de ce qui l'a mené à conduire cette guerre de 30 ans sont elles-mêmes singulières. Formé dès sa jeunesse à la discipline du kendo, Onoda a grandi dans le Japon militariste des années 30. Comme il l'écrit au chapitre 8, l'un des plus hallucinants de son récit, « Combattez jusqu'au dernier souffle. Il faut protéger l'Empire à tout prix. 100 millions de morts pour le Japon. Ce sont les mots d'ordre avec lesquels j'ai grandi », écrira-t-il après 1974 quand il reviendra et qu'il écrira ce livre. Hein, ça va être un vrai phénomène mondial hein, lorsqu'il va revenir. Je ne sais pas si vous avez une réaction d'Igor Arabal et Philippe Subercaz sur cette histoire qui est quand même une histoire qui a 80 ans hein, quasiment aujourd'hui hein, par rapport à son arrivée effectivement dans les îles.
Ça paraît incroyable. Hein. Ouais, c'est fou. Personne ne savait pas que la guerre était finie. Quoi.
Et persuadé, vous allez voir que vous allez voir ce qu'il écrit en page 9. À partir du moment où effectivement il décide de ne pas se rendre, il écrit, donc sans le savoir, il entre dans une dimension inconnue dans laquelle il va bâtir un autre monde où l'Empire du Japon n'a pas perdu la guerre et où sa population n'a pas subi par deux fois les frappes nucléaires de l'ennemi. Il emploie bien plus souvent ce terme que celui d'Américain. Il ne parle jamais d'Américain, y compris lorsqu'il écrit le livre. Il parle effectivement d'ennemi. Il écrit par exemple « Je croyais sincèrement que le Japon ne se rendrait jamais tant qu'un seul Japonais serait encore en vie. Et réciproquement, si un seul Japonais était encore en vie, le Japon ne pouvait s'être rendu. »
C'est un aveuglement assez impressionnant. Hein.
C'est un aveuglement impressionnant. Et je voulais le présenter, vous voyez, Diego Arabal, parce que je trouve que l'intérêt qu'il y a aujourd'hui, notamment avec les Infox, c'est comment des personnes, et lui, il est là-dedans, sauf qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, il est dans cet Infox, effectivement, de s'être convaincu que le Japon ne peut pas se rendre. Et il va tenir pendant 30 ans. Je ne sais pas si vous voyez la force mentale qu'il faut pour refuser de se rendre pendant 30 ans. Et alors, vous allez voir un peu ce que ça génère, ce qu'il écrit, c'est quand même assez incroyable. Il écrit à un moment donné « Qui a dit que nous avions perdu la guerre ? Les journaux prouvaient que c'était faux. Si nous avions perdu, tous les Japonais seraient morts. Le Japon n'existerait plus, sans même parler des journaux japonais. Car c'est en partie avec les journaux et magazines laissés volontairement par les nombreuses unités de recherche qui sillonnèrent en vain l'île de Lubang pendant 30 ans qu'Onoda construit son monde. » C'est une histoire dingue. On lui laisse des journaux auxquels il ne croit pas. Et vous allez voir ce qu'il écrit. Dans le livre, il écrit, cela prend même des accents comiques, par exemple, lorsqu'il en discute avec son camarade Kozuka, le dernier à se faire abattre par des soldats philippins, mais quasiment 20 ans après la fin de la guerre. Mmh. Il écrit, un jour, Kozuka fit remarquer, quand on y pense, les Américains sont vraiment bons pour falsifier les émissions de radio. Pas vrai, parce qu'ils récupèrent un poste de radio. Et lui-même répond, « Oui, répondis-je, ils doivent enlever tout ce qu'ils ne veulent pas que l'on entende avant de rediffuser le tout quasiment en direct. Ils ont dû engager une équipe de gens très doués, juste une petite erreur, et tout le simulacre serait révélé. Je leur tire mon chapeau, ça doit être une tâche vraiment complexe. » C'est ce qu'il répond à son camarade, persuadé, mais on est 25 ans après, la fin de la guerre.
Oui, mais pour lui, il est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie
théorie du complot. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que je trouvais que cet ouvrage a une grande résonance avec effectivement ce qui se passe aujourd'hui. On est capable d'être dans un tunnel informatif où on va être effectivement, où on va croire des choses qui sont totalement fausses. On l'avait vu, vous savez, notamment pendant la Covid, sur le fait que les vaccins voilà, pouvaient tuer les gens, etc. Puis bon, en fait, on a vu que tout cela, effectivement, ne reposait absolument sur rien. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir. Hiro Onoda, au nom du Japon. Hein, il y a un bandeau, c'est le journal du soldat japonais qui survécut 30 ans dans la jungle. Il faut savoir qu'au départ, ils sont plusieurs en 1944. Et puis, au fur et à mesure, les uns et les autres vont être tués. Puisqu'en fait, ils tentent de les retrouver. Hein, comme je vous l'ai dit, ils envoient même son frère, qu'il appelle, il entend la voix de son frère. Et il se dit, il doit être prisonnier. Il doit être prisonnier, c'est un simulacre, ils font semblant que... Et il va trouver la libération grâce à un touriste japonais qui, en 1974, est au bord d'une rivière, qui voit arriver un homme donc, avec donc un uniforme qu'il a complètement refait, et qui lui dit « Vous êtes Hiro Onoda ?» Et il se dit « Comment cet homme qui est beaucoup plus jeune que moi peut me connaître ?» Et il lui demande de le prendre en photo pour dire « Écoutez, je vais vous prendre en photo pour qu'on me croie que je vous ai vu. » Et lui lui fait comprendre qu'il n'arrêtera la guerre qu'à partir du moment où on enverra un officier qui lui remettra un courrier officiel du Japon comme quoi on le relève de ses fonctions. C'est vraiment...
Hallucinant.
Écoutez, il faut lire ce... Franchement, moi, quand je l'ai lu, quand je l'ai lu, c'est un roman fascinant. C'est un journal fascinant. Il faut vraiment le lire, vous vous dites...
Quelle est sa réaction une fois qu'il apprend effectivement que la guerre est finie depuis un moment ?
C'est terrible.
Et qu'il s'était mis dans la tête, il était complètement...
C'est terrible.
C'est là où la guerre est affreuse, parce qu'on peut complètement mettre dans la tête des gens des choses incroyables.
Alors, voilà. Il faut comprendre que lui, quand il est envoyé sur l'île de Lubang, il est envoyé pour y faire de la guérilla. Donc la guérilla, c'est pas une guerre où on est contre le soldat. Il a été formé pour ça. Il a été formé pour intercepter des courriers, pour essayer de truquer des informations. Et donc il est persuadé que c'est lui qui manipule ce qu'il appelle les ennemis. Alors que pendant 30 ans, il va se manipuler lui-même sans le savoir. Et donc quand il repart en avion, par rapport à votre question, Philippe Subercase, qu'il voit à Lille...
Ce qui est fou, c'est que quelque part, n'importe quel soldat essaye d'avoir des informations de sa famille, des gens qu'il connaît. Là, il s'est vraiment coupé du monde pendant 30 ans.
Il s'est coupé du monde parce qu'il est persuadé que la guerre continue.
Oui.
On lui a demandé, il a reçu l'ordre. Il faut bien comprendre qu'il est à l'époque de l'empereur Hirohito. Donc, il donne sa vie à l'empereur Hirohito. Il donne sa vie au Japon. Il est prêt à mourir pour le Japon. Et donc, il est dans cette configuration-là qui va l'aider à tenir pendant 30 ans. Hiro Onuda va mourir à l'âge de 92 ans. C'est quelqu'un qui va vivre très vieux. En dépit du fait que pendant 30 ans dans la jungle, il est à la période des pluies où ils sont mouillés pendant 2 mois, 3 mois. Ils sont obligés de tout le temps se déplacer parce que l'armée philippine va les chercher pendant toute la période des 30 ans. Il est obligé de voler du riz, donc d'arriver, de tirer sur des villageois. Un jour, il rentre, il vole donc un poste de radio. Ils entendent donc la radio américaine, japonaise, etc. Tout, puis ils se disent, c'est pas possible. Et quand on leur ramène des journaux pour leur montrer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ils voient effectivement les informations internationales, la guerre de Corée, ils se disent la guerre continue. Toutes ces informations ne font que le renforcer, quoi.
Oui, surtout que je pense, quand ils ont été envoyés sur cette île, ils étaient plusieurs, c'était un commando qui était envoyé sur l'île, et je pense que leur objectif, c'était en fait de faire de la guérilla et de faire de la contre-information, et donc ils sont dans une logique intellectuelle qu'ils sont aussi, alors eux ils font de la contre-information, mais ils sont aussi soumis à la contre-information de leurs ennemis.
Exactement.
Et effectivement, ils sont dans un aveuglement, mais qui dit quand même pas mal de choses sur la façon dont l'Empire japonais fonctionnait dans les années 30.
Ah mais ça, tout à fait, complètement. Et vous voyez, lorsqu'il le dit au tout début du roman, ça s'appelle, au tout début plutôt de son journal, ça s'appelle Retrouvailles. Donc il a le major Taniguchi qu'il a commandé pendant la guerre. Ils vont l'envoyer à lui, parce qu'il veut recevoir ses ordres de lui, qui était son chef 30 ans auparavant. Vous vous dites, mais même dans un film, une fiction...
On dirait que ça a été tiré par les cheveux. Hein.
Ah ouais, ouais, on dirait que ça a été tiré par les cheveux, sauf que c'est vrai, quoi. Et voilà ce qu'il dit. Donc la personne qui le trouve, c'est Suzuki. Donc il met dans la tente, une ombre bougea, mais je continuais à marcher. Suzuki, donc l'homme qui le retrouve, les yeux exorbités par l'excitation, courut vers moi pour me serrer chaleureusement la main gauche. Je me suis arrêté à une dizaine de mètres de la tente, de l'intérieur de laquelle une voix se fit entendre. C'est vraiment vous, Onoda ? Je suis à vous dans une minute. Je reconnus là le timbre du major Taniguchi. Sans bouger, j'ai attendu qu'il fasse son apparition. Suzuki s'est alors penché par l'ouverture dans la tente et en a sorti un appareil photo. À l'intérieur, le major était torse nu. Il a jeté un œil vers moi et a déclaré « Je suis en train de changer de vêtements. Attendez une minute, je ne sais pas si vous voyez, même là, c'est rocambolesque, là, la façon dont ça se fasse. » Et il s'approche de lui, il lui dit « Lieutenant », donc il s'approche plutôt du major, et là, figé dans un garde-à-vous impeccable, j'ai hurlé. Lieutenant Onoda, major, à vos ordres, 30 ans après. S'imaginer, c'est parfait, a répondu le major Taniguchi en s'approchant de moi pour me tapoter l'épaule gauche. J'ai apporté ça pour vous de la part du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Il m'a tendu un paquet de cigarettes sur lequel était imprimé le chrysanthème du sceau impérial. Je l'ai accepté et je l'ai levé au-dessus de moi pour marquer comme il se doit mon respect pour l'empereur, puis j'ai reculé de 2 ou 3 pas. Le major Taniguchi a déclaré « Je dois vous lire vos ordres ». Et là, il lui lit ses ordres. Ordre de l'escadron spécial du chef du cabinet du quartier général, Bekabak, 19 septembre, 19h. En accord avec le commandement impérial, la 14e armée régionale a cessé tout combat. En accord avec le commandement militaire du quartier général numéro 2003, l'escadron spécial du chef de cabinet du quartier général est relevé de tout ouar militaire. Et là, quand il entend ça, c'est... Voilà. Et puis qu'après, on lui révèle la vérité, voilà. Et il va revenir au Japon, ça va être un monument vivant. Je veux dire, il va faire des conférences, sortir un livre, parcourir le monde, parce que cette histoire va être fabuleuse. Vraiment à lire, hein. Hiro Onoda, au nom du Japon, en livre de poche. C'est une histoire, voilà, pour le 80e anniversaire de la fin de la guerre, hein, en septembre donc de cette année, à lire. Deuxième livre, je vous le disais, il me reste quelques minutes, Lucie Aubrac. Ils partiront dans l'ivresse. Est-ce que vous savez pourquoi c'est le titre de son journal,
Ils partiront dans l'ivresse? Non.
Je vais vous lire, elle le dit au tout départ de l'histoire, c'est très très beau, vous allez voir pourquoi elle a appelé ça « Ils partiront donc dans l'ivresse ». En novembre 1980, en novembre 1943, en janvier puis février 1944, parmi les nombreux messages, sortes de phrases codes que la BBC émettait de Londres en direction de la résistance française, l'un d'eux concernait la famille Aubrac. Pour des raisons météorologiques, l'avion anglais ne put atterrir en novembre 1943 et en janvier 1944 sur le terrain clandestin où l'attendait l'équipe de réception. Le 8 février 1944, par une nuit de pleine lune, l'avion était au rendez-vous. La BBC avait répété à ses trois émissions de la journée « Ils partiront dans l'ivresse ». C'était le petit message qui leur indiquait qu'effectivement,
c'était le nom de code.
Le nom de code. Lucie Raymond Aubrac allait pouvoir partir dans l'ivresse vers l'Angleterre. C'est vraiment le journal, voilà, de Lucie Aubrac où elle raconte toute cette histoire, comment elle a rencontré son mari, comment elle l'a sorti de prison, hein, comment elle a fait, elle a monté un commando donc pour sortir donc son mari lorsqu'il est interrogé, donc faut le savoir à l'époque, par Klaus Barbie. Hein, lorsque son mari est arrêté, il est avec Max. Max, c'est le nom de code de Jean Moulin.
D'accord.
Le mari Lucie Aubrac est avec lui lorsqu'ils sont arrêtés. Ils sont séparés. On connaît le destin de Jean Moulin qui mourra donc dans un train en direction donc de l'Allemagne après avoir été torturé. Il faut savoir que lui aussi effectivement sera torturé. Raymond Aubrac et ils partiront. Et elle raconte effectivement toute cette histoire. Pareil, idem. Hein, je l'ai dit, c'est un livre à lire dans le cadre du 80e anniversaire. Et ce qui est intéressant, c'est la fin. De son journal, postface 40 ans après, au début de 1983, je lis, la France a obtenu l'extradition puis le transfert à Lyon pour y être jugé de Klaus Barbie, qui fut le chef de la Gestapo dans cette ville pendant l'occupation. Et là, elle raconte comment elle vit, effectivement, le jugement de Klaus Barbie, qui, durant son jugement, va faire en fait le jugement de la résistance française. Et c'est vraiment un écho particulier, c'est pour ça qu'il faut le lire, parce que comme je le disais en exergue de cette émission, Philippe Subarcaz et Diego Arrabal, la paix n'est jamais, et on le sait d'autant plus actuellement, la paix n'est jamais un bien acquis définitivement.
Effectivement.
Jamais, jamais. Et lire ces deux livres pendant l'été au moment où on est en vacances, alors c'est des lectures réflexives, ça nous remet aussi les idées au clair pour ne pas oublier effectivement ces deux choses. Et on trouve que pour le 80e anniversaire d'un jour, un livre, un auteur, que pour le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lire ces deux livres, Hiro Onoda, Au nom du Japon, en livre de poche, Lucie Aubrac, Ils partiront dans l'ivresse.
C'est de beaux livres. Et puis, c'est bien aussi que vous ayez mis Lucie Aubrac, parce que le rôle des femmes, quand même, dans
exactement,
la résistance.
Exactement.
On parle beaucoup des hommes, oui, des hommes qui allaient se battre, mais oui, le rôle des femmes, mais c'est incroyable, les femmes aujourd'hui, qui à la fois menaient des actes vraiment de résistance et à la fois protégeaient leur famille.
Il faut savoir, hein, qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'hommes ont été décorés.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, qui ont été décorées. Elles ont joué un rôle dans la résistance pour transmettre des messages. Et on le voit notamment, il y a un passage de Lucie Aubrac qu'on va terminer là-dessus. Vous allez voir, ce passage, c'est un des passages qui m'a le plus ému. Donc son mari a été interné.
Arrêté, oui.
Arrêté, et on pense qu'il va être emmené, transféré à la gare de Lyon. Donc, elle est chargée avec des résistants de surveiller le départ des trains parce qu'il y a des cheminots qui sont également résistants. Et voilà ce qu'elle écrit en page 113. Au bout d'une heure d'attente, un détachement de soldats allemands s'aligne sur le ballast le long du train. Puis arrive une colonne de gens civils. Ce sont sûrement des juifs. Tous à peu près bien vêtus, une valise à la main, comme pour un départ tranquille en vacances. Ils montent dans les wagons, tandis qu'un Feldwebel active le mouvement. Schnell, schnell ! Il y a là des hommes et des femmes de tous âges, des enfants aussi. Dans les rangs, une de mes anciennes élèves, Jeannine Crémieux. Elle s'est mariée en 1941, a eu un bébé ce printemps.
Elle tient le poupon sur le bras gauche, une valise à la main droite. La première marche est haute, au-dessus de ce ballast caillouteux. Elle pose sa valise sur la marche, s'accroche d'une main au montant de la porte, n'arrive pas à se hisser. Le Feldwebel arrive en hurlant et lui envoie un coup de pied dans les fesses. Déséquilibrée, elle hurle. Son bébé a roulé par terre. Dérisoire, petit tas blanc gémissant. Je ne saurai jamais s'il a été blessé, car les copains m'ont tiré en arrière et bloqué les mains au moment où j'allais tirer. Voilà, j'en ai la chair de poule rien que de vous le lire, c'est un passage incroyable. Extrêmement fort, c'est-à-dire ils sont armés, et elle, là, elle se dit non, je peux pas. Et en fait, quand ils voient qu'elle va tirer, parce qu'ils font ça à cette femme, et qu'au moment où ils lui font ça, il faut savoir que Lucie Aubrac est enceinte. Elle est enceinte de son deuxième enfant, et ce qu'elle voit là, elle réagit effectivement en tant que femme, et aussi en tant que mère. Vraiment, moi je recommande aux auditrices et aux auditeurs de se procurer de ces deux livres, de les lire, et de les mettre en perspective avec la période, effectivement, que l'on vit actuellement. Ce qu'elle dit à l'intérieur, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde et ne jamais renoncer.
Et puis, voilà, ça me rappelle l'interview qu'on a fait avec, il y a quelques semaines, avec René Truss, qui est vice-président aujourd'hui de la Ligue de l'enseignement 65 et qui organise le Mai du Livre. Il nous donnait un chiffre qui fait des fois un peu peur. 80% des livres qui sont aujourd'hui en circulation en France ne sont lus que par 8%.
Eh oui, non, mais c'est clair, c'est clair. J'ai terminé, vous voyez, sur cette phrase, c'était un commentaire du Nouvel Observateur, hein, du journal Le Nouvel Observateur, lorsque ce livre est sorti. Voilà le commentaire qu'ils ont fait. D'école en collège et en université, Lucie Aubrac allait apprendre aux plus jeunes qu'il n'est d'impossible que ce qu'on n'a pas tenté de surmonter. Et voilà, j'aurais qu'on termine cette émission sur cette phrase, parce que dans cette perspective actuelle, j'ai trouvé que c'est une vraie leçon de vie que de lire Lucie Aubrac, Ils partiront dans l'ivresse, qui est, je le répète, pour celles et ceux qui ont repris l'émission en cours de route, le petit message donné par la BBC pour leur dire effectivement qu'ils vont pouvoir quitter la France. Hein. Toum, 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 petit message personnel, ils partiront dans l'ivresse, répété 3 fois dans la journée. Avant que dans la nuit qui suive, il soit emmené. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Lucie Aubrac est enceinte et va accoucher donc une semaine après. Je ne sais pas si vous voyez, donc elle part dans des conditions qui sont...
Et son mari a été arrêté et torturé et mourir quelques temps après.
Alors, le mari Raymond Aubrac, non, en fait, ne mourra pas. C'est Max, c'est Jean Moulin, qui mourra. Voilà, son mari, en fait, on lui demandera, effectivement, il est appelé par le général de Gaulle, il va jouer un rôle considérable dans le Conseil national après de la résistance. Voilà, et ce sont deux personnes qui, après la guerre, ont voué leur vie à ce devoir de mémoire. Vous savez, on en parlait l'autre jour avec Diego Arrabal dans le roman qu'il a fait, où il disait que lui, par rapport à la Riterada, il a un devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire, comme aujourd'hui il n'y a plus de témoins, ça va être à nous bientôt, effectivement, que de le faire. Et on veut aussi faire ça sur présence, voyez, d'un jour un livre, un auteur. Ne pas oublier, ça fait partie de ce que j'appelle moi des lectures réflexives. Donc Hiro Onoda, Au nom du Japon, voilà, le journal d'un soldat japonais.
Paru à quelle édition ?
Alors, donc un livre de poche, d'accord, un livre de poche, resté pendant 30 ans dans la jungle de 1944 à 1974, persuadé que la guerre n'était pas terminée, et Lucie Aubrac, ils partiront dans l'ivresse en livre de poche. On continuera à la rentrée, hein, au mois de septembre, on va en parler, et on parlera notamment d'un livre écrit, peu de gens le savent, par Jean Moulin, en 1940, sur l'accueil des Allemands, où Jean Moulin, pour la première fois, commencera à résister aux Allemands, et sera torturé, on en reparlera, en 1940, lorsqu'il y a un bombardement allemand, et on veut faire croire que ce bombardement, c'est pas un bombardement, que ce sont des soldats noirs français qui ont violé et mutilé effectivement ces personnes. On lui demandera signer un papier, il refusera, il le raconte dans ce livre qui paraîtra après la guerre, que sa sœur fera pas.
Radio Présence à Millau, 106.5.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Audience générale place Saint-Pierre ce matin. Le pape Léon XIV a poursuivi son cycle.